Merci d'écouter Radio France Internationale, 6h30 à Paris, 5h30 à Alger. Une demi-heure d'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et tout d'abord, la relation pour le moins compliquée de la France et de l'Algérie.
On les croyait prêtes à se réconcilier, les voilà à nouveau fâchés. Et Paris répond à l'identique à Alger dans un nouveau chapitre de tension avec l'expulsion de 12 agents consulaires et diplomatiques algériens. On prendra le temps de revenir sur cette nouvelle brouille. 2 milliards d'euros récoltés l'an passé à Paris, 800 millions récoltés hier à Londres à l'occasion d'une conférence internationale pour venir en aide aux Soudanais. La guerre au Soudan est entrée hier dans sa troisième année. Le général Hemeti, à la tête des paramilitaires FSR, a annoncé d'ailleurs la mise en place d'un gouvernement parallèle. Pendant ce temps, nous, sur RFI, on refermera après ce journal notre série de reportages aux côtés des exilés soudanais qui ont tout perdu à cause de cette guerre. La RDC ensuite et ses violences qui secouent certaines provinces de l'Ouest depuis un bon moment. Désormais, les miliciens Mobondo font régner la terreur eux aussi. En RDC également, coup de projecteur sur le photographe Aubin Moukoni, l'un des lauréats du prestigieux prix World Press Photo 2025. Une plongée dans l'histoire avec une visite au musée du Quai Branly à Paris qui a travaillé avec des experts d'Afrique de l'Ouest pour retracer l'histoire parfois sombre de ses collections. Comment le Sénégal fait face à l'existence d'une dette cachée de 7 milliards de dollars? Ce sera notre dossier Afrique Économie ce matin. L'actu sport également au programme. Vous êtes tous les bienvenus sur la Radio du Monde. Si vous pensiez vous aussi la crise diplomatique en passe de se résorber entre la France et l'Algérie, ce n'est pas que vous aviez mal compris l'actualité, c'est juste qu'elle est particulièrement mouvante ces temps-ci des deux côtés de la Méditerranée. Après un réchauffement annoncé des relations, une nouvelle pomme de discorde crée finalement de nouvelles tensions surprises. La mise en examen en France de 3 Algériens, dont un agent consulaire vendredi dernier. En face, l'expulsion en réaction de 12 fonctionnaires français par Alger ce week-end. Et puis dernier développement hier, donc Paris expulse à son tour 12 agents consulaires et diplomatiques algériens et rappelle son ambassadeur. Finalement, Magali Lagrange, ce n'est donc qu'un nouveau rebondissement et un nouveau chapitre dans cette relation tumultueuse, mais rien n'arrive par hasard.
La relation franco-algérienne s'est de nouveau tendue il y a 8 mois, quand Emmanuel Macron a apporté son soutien au Maroc sur la question du Sahara occidental pour un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Alger, qui y est farouchement opposé, avait alors rappelé son ambassadeur à Paris. Autre point de tension, l'arrestation en France d'influenceurs d'origine algérienne pour apologie de la violence sur les réseaux sociaux et le bras de fer en début d'année autour de plusieurs ressortissants algériens sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français qu'Alger a refusé d'accueillir. Enfin, l'arrestation de Boualem Sansal, mi-novembre, en Algérie, l'écrivain franco-algérien condamné à 5 ans de prison, notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire. Paris continue de demander sa libération. Fin mars, l'appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune avait amorcé un début de normalisation, suivi de la visite officielle à Alger du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'était il y a 10 jours.
Les explications de Magali Lagrange. Venir au chevet des millions de Soudanais confrontés à ce qui est sans conteste l'une des pires crises humanitaires de notre planète. Le Soudan entrait hier dans sa troisième année d'une guerre fratricide et à Londres, une vingtaine de pays et d'institutions internationales s'étaient donné rendez-vous pour répondre à cette crise humanitaire. Sans la présence des belligérants, d'ailleurs, ce que déplore le gouvernement soudanais, mais à l'arrivée d'une voix commune, les participants de cette conférence londonienne ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent et surtout à tout faire. Tout pour éviter une partition du Soudan à l'heure où les paramilitaires des forces de soutien rapide accentuent leurs offensives au Darfour notamment et où leur chef, le général Hemeti, annonçait hier la mise en place d'un gouvernement parallèle à Londres. Compte rendu de cette conférence avec Emeline Vin.
Un chiffre pour résumer la conférence de Londres, plus de 800 millions d'euros. C'est la somme promise par le Royaume-Uni, l'Union européenne et ses membres et les autres participants pour soutenir l'assistance humanitaire au Soudan, principalement par des colis alimentaires et du soutien pour les victimes de violences sexuelles. L'aide financière, c'était le premier objectif de cette réunion internationale, le plus facilement mesurable aussi. Deuxième but, remettre le Soudan dans l'actualité. Le chef de la diplomatie britannique a invité les participants à ne pas se résigner à un conflit inévitable. Et c'était le dernier objectif, faire progresser le processus de paix. Personne ne s'attendait à un accord de cessez-le-feu dès ce mardi. D'ailleurs, ni l'État soudanais, ni les paramilitaires des FSR n'étaient représentés. Mais des partenaires de chacune des parties avaient été invités. Par exemple, l'Égypte, le Kenya ou encore les Émirats arabes unis soupçonnés d'armer les FSR. Les partenaires occidentaux devaient saisir l'occasion pour faire preuve de diplomatie patiente, selon la formule du ministre britannique des Affaires étrangères, qui espère que le conflit aura évolué vers la paix d'ici un an. Emeline Van Londres, RFI.
L'horreur de la guerre qui frappe toujours l'est de la RDC également, on en parle régulièrement sur RFI. Mais il y a d'autres violences dont on parle un peu moins, pourtant bien réelles, elles aussi dans l'ouest de la RDC. Elles secouent depuis près de 3 ans les provinces du Maïndombé, du Kwango et du Kwilu, des provinces voisines de celles de Kinshasa, frappées à l'origine par un conflit communautaire. Mais désormais, ce sont des miliciens qui menacent les civils. Leur nom, les Mobondo, Polynazidi, des adeptes de la pratique des enlèvements manifestement.
Le 12 avril dernier, ce sont deux paysans qui ont été enlevés dans leur champ près de la localité de Menko, dans le Maïdombé. L'armée a alors mis en place des patrouilles pour les retrouver et lundi soir, un raid a été mené sur un campement de miliciens. Les FARDC disent avoir capturé un de leurs chefs, le colonel autoproclamé Pembe, ainsi que son garde du corps. Sur la route du retour, les soldats congolais ont à leur tour été pris pour cible, selon le capitaine Anthony, porte-parole de l'armée dans le secteur.
Au cours de leur transfert vers l'état-major de l'armée. Les soldats congolais sont tombés dans une embuscade tendue par une autre faction du groupe rebelle. Des violents affrontements ont éclaté entre les assaillants et les FARDC. Au cours des échanges de tirs, le chef rebelle capturé a été mortellement atteint par balle. Son garde du corps, quant à lui, a été conduit sain et sauf à l'état-major pour interrogatoire.
Les deux paysans enlevés n'ont eux pas encore été retrouvés, déplore le capitaine Anthony, qui ajoute que souvent, les otages sont enrôlés de force dans les rangs des miliciens. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
La RDC, où il dénonce avec talent la pollution du lac Kivu, et il se voit salué pour cela. Zoom ce matin sur le travail du photographe congolais Aubin Moukoni, lauréat, l'un des lauréats du prestigieux World Press Photo 2025 avec son projet The Lake Has Fallen Silent, le lac est devenu silencieux. Un lac Kivu capital pour les riverains et qui est aussi le témoin de l'instabilité régionale en plus de la pollution et des bouleversements climatiques. C'est ce qu'a voulu mettre en lumière Aubin Moukoni et il est heureux aujourd'hui que son travail soit ainsi remarqué, mais personne n'en parlera mieux que lui.
C'est une reconnaissance immense pour moi, non seulement pour mon travail, mais surtout pour la voix de la communauté affectée par la pollution du lac Kivu que j'ai voulu représenter. Je me suis senti en tout cas très, 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 très honoré de pouvoir faire attendre leur voix sur une scène mondiale.
Qu'est-ce que dit cette voix?
Alors, cette voix, c'est cette lutte, en fait, de cette communauté qui est affectée par l'économie, par cette pollution du lac Kivu et qui cherche à tout prix comment est-ce qu'ils peuvent défendre ces défis. Et comment est-ce qu'ils peuvent être attendus par rapport à ces défis auxquels ils traversent.
Voilà la réaction du photographe congolais Aubin Moukoni, qui est donc l'un des lauréats du World Press Photo 2025. Des manœuvres navales, la marine indienne et celle de 10 pays africains réunis en Tanzanie. Jusqu'au 18 avril, des exercices maritimes conjoints y seront menés pour renforcer la coopération maritime et la lutte contre la piraterie dans la région. Un format multilatéral aux dimensions inédites qui vise pour l'Inde à s'affirmer dans l'océan Indien, notamment face à la Chine. Allez, une plongée dans l'histoire à présent, une histoire parfois sombre, mais riche de 1001 trésors culturels. Et pour retracer le parcours des objets qui ont notamment été recueillis lors de la célèbre mission ethnographique française Dakar-Djibouti entre 1931 et 1933, eh bien, le musée du Quai Branly à Paris a travaillé près de 100 ans plus tard avec des experts venus du Mali, du Bénin, du Cameroun, du Sénégal, de l'Éthiopie et de Djibouti. Pour mieux identifier certains objets et leurs conditions de collecte, souvent effectuées sous contrainte, Isabelle Chenu.
C'est une exposition passionnante réalisée entre spécialistes africains et français qui éclaire d'un jour nouveau l'origine et les conditions d'acquisition de milliers d'objets aujourd'hui détenus par le musée du Quai Branly à Paris. Des objets du quotidien, mais aussi des objets sacrés dédiés aux rituels, aux initiations, des objets de pouvoir rapportés il y a près d'un siècle par la mission ethnographique Dakar-Djibouti. Dès 1934, dans son livre « L'Afrique fantôme », l'écrivain Michel Léris exprimait son amertume
d'avoir participé à une véritable razzia sous couvert scientifique. 6 chercheurs originaires de 14 des pays africains traversés se sont plongés dans les archives, les carnets, auscultant les objets, se rendant sur les lieux des collectes pour interroger les populations. De fait, les dites collectes se sont souvent effectuées dans la douleur, des achats avec tromperie sur la valeur, sous contrainte de l'administration coloniale qui accompagne la mission lors de ces étapes. Cette contre-enquête a permis aux chercheurs africains d'accéder à des sources jusqu'alors inaccessibles. La moitié des 3600 objets collectés par la mission l'ont été au Mali. Le Mali qui a dressé une liste et réclame à la France la restitution de 81 d'entre eux.
Isabelle Chenu sur RFI, 6h40 ici à Paris, 4h40 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Et restez avec nous, bien sûr, sur la radio du monde. Vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans un petit peu plus de 11 minutes, vous retrouverez RFI Matin avec Andréane, un peu plus de 19 minutes, pardon, que ce que je dis. Il est 6h40, donc dans 19 minutes, RFI Matin avec Andréane Mélard, le retour de l'actu internationale. Mais d'abord, eh bien, nous, on refermera ce matin une série de reportages exceptionnels pour montrer l'horreur et redonner un visage à ces millions de Soudanais qui ont fui l'horreur de la guerre. On continuera notre périple aux côtés de ces exilés. Nous serons au Soudan du Sud dans quelques minutes, où ces exilés sont confrontés à une nouvelle instabilité. 7 milliards de dollars de dette, ce n'est pas rien, d'autant quand cette dette vous a été cachée. C'est donc ce qui s'est passé au Sénégal. Et les autorités ont lancé une levée de fonds pour remettre les voyants dans le vert, une opération qui est un franc succès manifestement. Ce sera notre rendez-vous avec l'économie. Jusqu'où ira cette escalade qu'on croyait pourtant terminée entre la France et l'Algérie? Nouvelle brouille qu'on décryptera ce matin avec notre invité, le franco-algérien Lies Djebaili, qui dirige le collectif Algérie Droit Devant. L'humour de Maman et l'importance des mots ce matin, mais d'abord de l'importance du sport. Antoine Grenier nous a rejoint. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien.
Et c'est du football pour ouvrir votre journal avec Paris qui est en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais Paris, on peut le dire, qui a franchement souffert.
Oui, une quatrième qualification en 6 ans pour le dernier carré, obtenue dans la douleur avec une défaite 3-2 sur le terrain d'Aston Villa. L'avantage acquis à l'aller et même au début du match retour avec un 2-0 en faveur des Parisiens après une demi-heure. Tout ça a failli ne pas suffire. Les joueurs de Luis Enrique se sont fait peur et pour le latéral Achraf Hakimi, auteur de l'ouverture du score, il va falloir faire un effort là-dessus.
Ouais, je pense que ça voit le travail que Paris Saint-Germain, que le club peut faire. On a changé beaucoup depuis quel coach il a venu. Ça voit avec les résultats et on est content de jouer en deuxième demi-finale ensuite. Comme on sait, on a joué la première mi-temps. C'est pas possible qu'une équipe comme nous, comme vous le gagnez la Champions League, qu'on commence la deuxième mi-temps avec deux buts comme ça vite, et on devait prendre ça, on devait prendre un petit peu plus de responsabilités.
Achraf Hakimi avec Cédric De Oliveira, Paris qui se rassure un petit peu en se disant que dans l'autre quart de finale retour, Barcelone aussi a souffert en s'inclinant 3-1 face au Borussia Dortmund. Auteur d'un triplé, Serou Girassi a fait douter le Barça ce mercredi, fin de ses quarts de finale retour avec Inter Milan, Bayern Munich et Real Madrid, Arsenal.
Et on suivra tout ça bien sûr sur RFI. Une affiche en Afrique, Antoine. Mali, Maroc, ce sera la finale de la CAN U17.
Les Aiglonais maliens, vainqueurs du Burkina Faso 2-0 en demi, quatrième finale de Coupe d'Afrique de la catégorie pour le Mali, qui affrontera un Maroc qui a dominé la Côte d'Ivoire au tir au but. La finale de cette CAN U17, elle se disputera vendredi à 19h, temps universel.
Enfin, les parquets de basket et l'impatience de Dominique Malonga. Elle a hâte d'être lancée dans le grand bain.
La jeune française draftée en deuxième position par le Storm de Seattle, la franchise WNBA, le championnat féminin nord-américain, la native de Yaoundé, fille d'une ancienne internationale camerounaise et d'un papa congolais, veut porter haut les couleurs françaises et africaine dans le meilleur championnat du monde.
Forcément, déjà, j'en suis très contente parce que ça montre qu'il y a énormément de talents là-bas aussi. On parle beaucoup des talents français, mais il faut aussi qu'on parle des talents issus d'Afrique. Aujourd'hui, ça montre qu'il y a des perles à développer là-bas et que c'est pas forcément facile tout le temps à cause du manque d'infrastructures, à cause du manque de formateurs, à cause de, voilà, il y a plein de manques à ce niveau-là. Et c'est vraiment quelque chose que je veux souligner parce que il y en a tellement qui n'ont pas forcément eu l'opportunité que j'ai eu, ou que par exemple, Ignacy, qui était présent à ma draft hier, a eu aussi pour finalement avoir la chance de venir ici et se développer. Donc ça montre que c'est un noyau, il y a un noyau au Cameroun où je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose si on y met les moyens, si on change certaines choses. Et je pense aussi que l'évolution de nous, athlètes camerounais, ici, aux États-Unis ou même à l'international. Ça doit aussi faire en sorte que la donne change finalement et que nous aussi soyons capables de rentrer là-bas et d'essayer aussi à notre manière de mettre notre patte un peu pour que les choses puissent changer.
Dominique Malonga avec Victor Missistrano, l'international français qui débutera la saison de WNBA le 16 mai prochain.
Le rendez-vous est pris pour elle comme pour nous. Merci Antoine Grenier, on vous retrouve tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
Pour l'heure, 4h44 en temps universel, on jette un coup d'œil sur l'actualité internationale de ce mercredi 16 avril 2025 et cette enquête ouverte par Donald Trump aux États-Unis sur les effets sur la sécurité nationale de l'importation de minerais critiques comme le cobalt, le lithium et le nickel ou les terres rares, ainsi que les produits dérivés comme les smartphones ou les véhicules électriques. Enquête qui est une première étape pouvant permettre au président américain de publier ensuite un décret qui impose des droits de douane sur ces produits. Après plus de 3 ans de négociations, les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé approuvent un accord pour mieux se préparer et lutter contre les futures pandémies. Un texte qui prévoit notamment des transferts de technologies d'un commun accord. La création également d'un système d'accès aux vaccins ou des tests. L'OMS parle d'un accord historique qui sera examiné lors de l'Assemblée mondiale de l'organisation en mai. L'ancien président péruvien Ollanta Humala, condamné à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de corruption qui est lié au géant brésilien du BTP Odebrecht. L'épouse d'Ollanta Humala, Nadine Heredia, a également été condamnée à 15 ans de prison, mais elle était absente à l'audience. La juge a donc ordonné son arrestation. Et ça, c'est une guerre d'une intense violence qui fait irrémédiablement l'actualité depuis plus de 2 ans maintenant. Le Soudan est entré hier dans sa 3e année de guerre civile. Et depuis le début de la semaine sur RFI, on donne à entendre le calvaire de ceux qui ont tout perdu à cause de ce conflit. Leur redonner une voix. Ils sont pas moins de 13 millions à avoir fui leur foyer. 4 millions de ces personnes exilées hors des frontières du Soudan, au Tchad, au Kenya, on l'a vu dans nos 2 premiers épisodes. Ou pour des milliers de ces personnes au Soudan du Sud voisin. Pourtant là-bas, beaucoup se retrouvent finalement confrontés à une nouvelle instabilité, parfois ciblés, attaqués, parce que soudanais, dans un pays lui-même au bord d'une nouvelle guerre civile. À Djouba, Florence Mieto a pu recueillir de nouveaux témoignages saisissants.
Coiffé d'un foulard rose pâle, Amira Adam Bachar, 20 ans, a fui l'enfer d'Al-Fasher, cette ville du Darfour assiégée par les paramilitaires FSR. Elle est arrivée à Djouba une semaine seulement avant qu'éclatent les violences visant les Soudanais mi-janvier.
La police nous a protégés puis nous avons été amenés ici à Gorom. Nous sommes enregistrés comme réfugiés urbains, donc nous ne recevons aucune aide. Nous n'avons presque rien à manger ni à boire et mon frère qui vendait du charbon pour nous soutenir a été blessé dans les violences. Maintenant il ne peut plus travailler. Nous avons besoin d'aide.
L'histoire de Nouha Abdallah Mohamed, 34 ans, est tout aussi terrible. La mère de 2 enfants a fui les attaques des FSR à El Geneina, au Darfour Ouest, et rejoint son mari établi à Djouba comme commerçant. Mais leur magasin a été complètement pillé lors des émeutes contre les Soudanais. La famille s'est réfugiée à Gorom et a été à nouveau terrifiée par les combats entre forces sud-soudanaises qui ont eu lieu près du camp récemment.
J'aimerais pouvoir quitter le Soudan du Sud, mais je n'en ai pas la capacité, car c'est insupportable de fuir une guerre, de venir à pied d'un pays à l'autre, pour ensuite se retrouver à vivre encore la même chose, à entendre à nouveau les mêmes sons de tirs et de bombes. Nous ressentons beaucoup de peur et d'insécurité.
Originaire de Niala, dans le Darfour Sud, Aza Haroun Nourain, 40 ans, a la lourde charge de s'occuper de sa fille Ikram, 16 ans, qui a perdu une jambe dans le conflit soudanais.
Avant le début de la guerre, nous vivions bien à Niala. Quand le conflit a débuté, nous sommes restés enfermés chez nous. Mais un jour, une bombe est tombée sur la maison et a tué ma fille et mon neveu. Ikram, elle, a été grièvement blessée.
La famille a fui en août 2023 et c'est à Djouba qu'Ikram a été amputée de sa jambe gauche. L'adolescente garde de lourdes séquelles et a des cicatrices et des éclats d'obus un peu partout sous la peau. Elle ne peut être scolarisée.
Je ne peux pas aller à l'école parce que je ne peux pas marcher, même avec des béquilles. Donc je reste tout le temps dans notre abri. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la guerre s'arrête au Soudan et au Soudan du Sud. Et il faut penser à ceux qui ne peuvent pas fuir quand il y a du danger, comme moi qui ai perdu ma jambe. Je ne peux aller nulle part. Nous voulons vivre en sécurité, c'est tout.
Cette semaine, Ikram a rendez-vous au centre de réhabilitation physique du Comité international de la Croix-Rouge à Djouba, où elle espère apprendre à marcher à nouveau à l'aide d'une prothèse. Florence Mietto, Djouba, RFI.
La fin de notre série de reportages sur le calvaire des Soudanais contraints de fuir la guerre qui fait rage depuis avril 2023. Les trois épisodes sont à retrouver sur Internet, évidemment. Je t'aime, moi non plus, et peut-être même plus. Un ballet diplomatique pour le moins surprenant entre Paris et Alger. Après un réchauffement annoncé des relations au terme de plusieurs mois de crise, un nouveau dossier ravive donc finalement les tensions. Après l'expulsion de 12 agents consulaires français par l'Algérie ce week-end, la France répond à l'identique et rappelle son ambassadeur. Mais cette fois-ci, la crise peut-elle se résorber? Se dirige-t-on pour de bon vers une rupture des relations diplomatiques? On en parle, on décrypte ce matin avec notre invité, le franco-algérien Lies Djebaili. Il a milité pour le mouvement démocratique du Irak à Alger et dirige aujourd'hui en France le collectif Algérie droit devant. Et au micro de Christophe Boisbouvier ce matin, il fait part tout d'abord de sa surprise.
C'est regrettable, c'est incompréhensible. Les relations franco-algériennes s'acheminaient vers une détente, vers un dégel. Et puis, subitement, les relations se crispent davantage. Manifestement, on a l'impression que les deux présidents, M. Macron et M. Tebboune, malgré leurs relations personnelles, sont de bonnes relations, mais ils n'arrivent pas à se parler comme naguère. Bouteflika avec M. Chirac. Là, c'est quelque chose d'inédit, du jamais vu, depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis 1962. Le rappel des ambassadeurs côté algérien et côté français, l'expulsion de 12 agents consulaires et diplomatiques français-algériens, ouvre la voie vers la rupture des relations diplomatiques.
Vous craignez une rupture, hein ?
Je crains cette rupture entre la France et l'Algérie parce que c'est inédit. Depuis 62, une fermeture des deux côtés. Les ripostes s'enferment de part et d'autre. Voilà, espérant de jours meilleurs pour les relations franco-algériennes. Après tout, ce sont des relations historiques, profondes, où s'entremêlent les relations de famille, les relations de culture, du sang, ainsi de suite. Voilà. En tout cas, en tant que militant, en tant que franco-algérien aussi, l'Algérie, c'est mon pays de naissance et la France aussi, c'est mon pays d'adoption. Et je me sens aussi bien qu'algérien que français. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle de tous mes voeux pour le dégel de ces relations et revenir, tant soit peu, à la sagesse.
Lies Djebaili, invité ce matin de Christophe Boisbouvier sur RFI. Vous pourrez réécouter cet entretien plus en longueur vers 7h45, heure de Paris. Mais d'abord, il est 6h52 ici à Paris et on parle de ce secret qui a visiblement été bien gardé au Sénégal. Quelle ne fut pas la surprise lorsque l'existence d'une dette cachée de 7 milliards de dollars laissée par le camp Macky Sall a éclaté au grand jour. Résultat, les voyants économiques sont au rouge au pays de la Teranga et en réaction, le trésor public sénégalais a lancé fin mars une levée de fonds auprès des populations sur le marché de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nouveau résultat, un franc succès, plus de 400 milliards de francs CFA collectés une semaine avant la fin de la clôture. C'est notre dossier Afrique Éco ce matin. À Dakar, il est signé Juliette Dubois.
Saisissez une opportunité d'investissement sécurisée avec l'État, pouvait-on lire sur les téléphones de clients de la Société Générale au Sénégal ces dernières semaines. Devant une banque du centre-ville, beaucoup de Dakarois sont séduits par l'idée de prêter de l'argent à l'État. Abdourahmane Sow est standardiste.
Si c'est pour aider, il n'y a pas de problème. C'est le patriotisme, donc je le ferai volontiers.
Cette levée de fonds intervient alors que la dette atteint plus de 100% du PIB, 25 points de plus que ce qui avait été avancé par le régime sortant. Pour Charles, chauffeur coursier, cela fait une raison de plus pour investir dans ces bons.
La situation du pays, là, c'est l'ancien régime qui nous a mis dans cette situation-là, mais pas le régime actuel. Nous tous, nous savons que le Sénégal traverse des moments difficiles. Et c'est à nous, la population, de pouvoir soutenir ce nouveau pouvoir pour qu'on aille de l'avant.
Les taux d'intérêt vont de 6,4 à 6,95% et les bons sont à 10 000 francs CFA l'unité. Mais Yelaba, qui travaille dans la logistique, ne voit pas l'intérêt pour les particuliers.
Je me dis que pour peut-être 1 million, le rendu sur 3 ans, ce n'est pas vraiment intéressant pour moi. Maintenant, je me dis que peut-être pour ceux qui ont vraiment un gros capital, peut-être que ça pourra les intéresser. Mais bon, pour moi, je vais passer.
L'État sénégalais a souvent recours à ce type d'emprunt, mais la situation est particulièrement tendue aujourd'hui. Après les révélations de la Cour des comptes, la note du Sénégal a été abaissée deux fois par l'agence de notation Moody's et le programme du FMI suspendu. Il faut donc diversifier les sources de financement. Abdou Radredien, professeur d'économie à l'université Cheikh Diop de Dakar.
C'est sûr que l'emprunt extérieur demanderait des taux de plus en plus élevés.
parce que les bailleurs de fonds, les investisseurs vont prendre en charge effectivement des situations risquées. Donc en passant par le marché de l'UEMOA, effectivement par le marché des titres publics, l'État peut bénéficier des ressources longues.
Pour Eliman Khan du think tank Lex Africa, un emprunt obligataire ou même la négociation d'un nouveau prêt avec le FMI ne sont pas les stratégies les plus soutenables pour redonner des moyens à l'État.
Je pense que visiblement c'est plus des économies que peut faire l'État sur des lignes qui existaient déjà, sur des types d'investissements qui n'étaient pas très efficients, que l'État peut quand même souffler un peu.
La première phase du programme du président Bassirou Diomaye Faye pour la période 2025-2029 a été chiffrée à 18 000 milliards de francs CFA, soit plus de 28 millions d'euros. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Allez, avant de retrouver Andréane Mellard pour RFI Matin dans tout juste 5 minutes, place à l'humour de Maman et sortez les dictionnaires, s'il vous plaît. Il nous parle de sémantique ce matin, car selon vous, Maman, il y a des mots qui semblent avoir été spécialement créés pour les Gondouanais.
Oui, depuis l'aube des temps, dès que tu entends certains mots dans les conversations ou les débats à la télé ou dans la vie de tous les jours, tu sais tout de suite qu'on parle de toi, mon cher Gondouané lambda. Palabre, brousse, pagne, world music, migrant, case, etc. C'est à toi tout ça et à personne d'autre. Il en est de même de ces mots qui nous préoccupent aujourd'hui en très très démocratique république, l'ethnie et son fils maudit, l'ethnicisme. Tu as vu, hein, cher ami, dès que j'ai dit ethnie, ethnicisme, ben toi-même tu as eu ce petit rictus qui veut dire « ça y est, c'est reparti, on va encore être les vedettes ». Ethnie, comme ces autres mots que j'ai cités tantôt, ben c'est des marques déposées à notre nom, sans notre consentement. Hein. Tu te promènes dans la rue et dès que le mot « ethnie » retentit, ben tu sursautes et tu rentres la tête dans les épaules parce que tu sais que tous les regards seront tournés vers toi. L'ethnie, ben on sait ce que c'est. Hein. Mais alors, c'est quoi l'ethnicisme ? On sait ce que les gens croient en savoir, c'est-à-dire tous ces clichés sur les gens du Gondwana maritime, qui sentent le poisson parce qu'ils ne vivent que de ça, ne mangent que ça, et donc toute leur région sent le poisson, et que c'est pour ça qu'il ne faut pas les nommer à des postes de responsabilité dans les ministères, parce que ça sentira le poisson partout. Ça sentira au Conseil des ministres, ça sentira aux conférences internationales, etc. Et que donc, c'est pour ça que les gens du Gondwana maritime, là, il faut les laisser faire des boulots comme vendeurs de poissons, vigiles, jardiniers, vendeurs, bref, que des métiers dehors, quoi. On connaît aussi les clichés sur les Gondouanais de la montagne, tu sais, ces clichés qui disent que ces gens-là aiment vraiment trop vivre, se marier entre eux, quoi. Ils n'aiment pas se mélanger aux autres parce qu'ils veulent garder l'argent pour eux seuls, parce que tout le monde sait qu'ils adorent l'argent et qu'ils ont acheté tout le pays et qu'on doit se méfier d'eux et que eux non plus, on ne doit pas les accepter dans le gouvernement parce que ce serait trop dangereux. Ils ont déjà acheté tout le pays. Ne parlons même pas des préjugés sur les Gondouanais de la forêt qui n'aiment rien d'autre que de mettre leurs enfants dans l'armée, la police, la gendarmerie, la douane, parce qu'ils aiment l'autorité, le pouvoir. Ils pensent que c'est toujours eux qui doivent avoir le pouvoir et que si c'est pas eux qui sont au pouvoir, c'est zéro, les autres sont nuls. Et je peux continuer comme ça sur tous les autres Gondouanais. Mais j'arrête là parce que je viens de me rendre compte que parce que pendant que je vous raconte ça là, on n'a pas parlé du bilan de président fondateur. La malgouvernance, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de route, rien de rien après toutes ces décennies au pouvoir. Tiens, justement, c'est exactement ça la définition de l'ethnicisme dans le petit Gondouanais illustré. La technique du bouc émissaire. Pendant que tu pointes du doigt l'ethnie de ton voisin, ben tu oublies le bilan de président fondateur. Allez, à demain.
À demain, Maman. Merci à Thierry Le Saint qui a réalisé cet Afrique Matin. Merci à Pierre Pinto qui était à la rédaction en chef. Mais surtout, merci à vous pour votre fidélité. On passe d'ailleurs un franc salut ce matin à Kani Lubongo, fidèle auditeur de Brazzaville, qui relaie très régulièrement les contenus de RFI sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il nous a dit sur l'adresse africematin@rfi.fr. On le remercie. C'est plutôt un bon réflexe, hein, Andréane Mellard, RFI sur les réseaux sociaux.
Et oui, bien sûr.
RFI comme, Matin avec
comme
vous.
Comme sur notre site où vous pouvez retrouver aussi tous nos programmes. Merci Sébastien.
Bonjour à vous.
À tout à l'heure. Oui, bonjour. Bonjour à vous qui nous écoutez. Ravi de vous retrouver au programme de ces trois prochaines heures de l'info, des chroniques, des reportages, des invités. On va notamment revenir sur cette escalade à nouveau entre la France et l'Algérie. C'est dans la presse africaine, notamment ce mercredi. On va en parler. On va aussi parler des États-Unis, de la guerre commerciale. On en parle notamment dans le journal dans une minute avec Léa Boutin-Rivière. Restez avec nous.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Namoury Dosso.
En Côte d'Ivoire, le PDCI de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo ont claqué la porte de la commission électorale indépendante qu'ils accusent de partialité. Que vous inspire leur décision? On attend vos réactions.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Vivez sur RFI les quarts de finale de la Ligue des Champions. Thomas de Saint-Léger.
Une remontada ou la porte et la perte de la couronne européenne. Une semaine après la claque 3-0 reçue à Londres, le Real Madrid doit renverser Arsenal dans les grandes largeurs comme Barcelone face au PSG en 2017. Real Madrid-Arsenal, quart de finale retour de la Ligue des Champions, c'est ce mercredi à partir de 19h, temps universel sur RFI.